VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel en République démocratique du Congo. 26 personnes ont été tuées en 8 jours dans des affrontements entre les forces de sécurité et les partisans d'un chef traditionnel dans le Kasaï central. Cette province est considérée comme la base qui abrite le quartier général du mouvement du chef Kamuina Nsapu. Ce potentat local a été tué dans une opération de police le 12 août 2016. Il avait lancé des appels à l'insurrection et à la libération du Congo dans un appel audio qui circule toujours sur les réseaux sociaux. Au Congo, Brazzaville voisin, l'ancien candidat à l'élection présidentielle André Okombi Salissa, en clandestinité depuis des mois, a été arrêté mardi à Brazzaville par les forces de sécurité congolaises. L'opposant est actuellement détenu à la Direction générale de la surveillance du territoire. Le président de l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral, Luamba Moke, se dit inquiet pour les conditions de détention de cet opposant dans la cellule de la DST.
Nous ne considérons pas la Direction générale de la surveillance du territoire comme étant un lieu carcéral. Pour nous, le lieu carcéral, c'est la prison centrale, la maison d'arrêt. Le Congo est devenu un pays champion, effectivement, de la torture, et que nous craignons que ce monsieur, un ancien ministre, puisse subir la torture, parce que vous savez bien que ceux qui ont travaillé avec Okombi, certains ne sont plus en vie plus tôt, d'autres ont été torturés comme Kalakala, comme Okuya, ils sont nombreux parce que nous avons toute une liste des gardes-corps qui ont subi effectivement des véritables tortures.
Luamba Moke de la société civile congolaise. Le chef de file de l'opposition au Togo, Jean-Pierre Fabre, a demandé lundi soir la libération immédiate des personnes toujours écrouées dans l'affaire des incendies de deux grands marchés du pays. Après 4 années de détention préventive, 6 personnes, pour la plupart des militants de son parti, l'Alliance nationale pour le changement ANC, sont détenues dans certaines prisons du pays. Fabre est lui-même inculpé dans cette affaire et placé sous contrôle judiciaire. Au Togo, le pays se prépare à l'organisation en 2018 des élections législatives, des échéances électorales qui ne devraient pas se tenir sans les réformes attendues depuis 2006 à en croire certains partis de l'opposition. Du côté du pouvoir comme de l'opposition donc, des actions sont déjà annoncées pour que ces réformes se fassent. Retrouvons à Lomé notre correspondante Kaye Lawson.
6 partis politiques de l'opposition se retrouvent dans une coalition pour mener des actions en vue d'arracher les fameuses réformes. Maître Dodier Apevon, président des Forces démocratiques pour la République FDR, membre du groupe des 6.
Compte tenu de l'urgence de ces réformes-là, il faut aller à l'Assemblée pour les régler. Et les autres sujets qui sont des sujets plus délicats, confiez ça à une commission consensuelle qui aura du temps pour y réfléchir.
Le 3 janvier dernier, le président Faure Gnassingbé a pris un décret nommant les membres de la Commission nationale de réflexion sur la réforme. Pour le chef de file de l'opposition, la mise en place de cette commission de réflexion sur la réforme s'apparente à un coup de force. Jean-Pierre Fabre.
Le chef de l'État n'a pas le droit de mettre en place cette commission, sauf à vouloir décréter la mort de l'accord politique global. Cet acte de vouloir mettre fin unilatéralement à l'APG, pour nous, s'apparente au coup de force ou au coup d'État du 5 février 2005.
Kaye Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Au Nigeria, des procureurs italiens enquêtent sur un scandale impliquant l'ancien président Goodluck Jonathan et sa ministre du pétrole, soupçonnée d'avoir reçu des pots de vin pour conclure un contrat de 1,3 milliard de dollars avec les géants pétroliers Eni et Shell. Selon des documents judiciaires consultés par l'AFP, le parquet de Milan mène actuellement donc une enquête préliminaire visant 11 personnes, y compris les dirigeants des deux majors pétrolières et les entreprises elles-mêmes. Dans son discours d'adieu après les 8 années passées à la Maison-Blanche, le président Barack Obama a appelé mardi ses concitoyens à défendre les valeurs américaines et à rejeter les discriminations dans une allocution empreinte d'émotion lors de laquelle il a remercié sa famille et déclaré le temps passé à la Maison-Blanche comme l'honneur de sa vie. Barack Obama a demandé à son auditoire d'embrasser sa vision du progrès et de rejeter certaines des mesures politiques que souhaite prendre son successeur à la Maison-Blanche, le républicain Donald Trump. Et les chefs du renseignement américain ont informé Donald Trump la semaine dernière dernière de l'existence d'informations compromettantes qui auraient été recueillies pendant des années par la Russie sur le milliardaire républicain et rassemblées dans des notes confidentielles circulant maintenant à Washington. La Russie a réagi ce matin disant ne pas avoir de dossier compromettant sur le président élu Donald Trump. Le Kremlin dénonce des accusations des chefs du renseignement américain comme une falsification totale destinée à saper les relations avec Washington. La direction palestinienne a appelé hier à protester au cours de la grande prière musulmane de vendredi à travers tout le Moyen-Orient contre l'intention du président Donald Trump de déménager l'ambassade américaine en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. John Lindon.
Il y a eu de nombreuses mises en garde contre les faits que pourrait avoir un tel transfert. Le secrétaire d'État sortant John Kerry parle des risques d'une explosion absolue dans la région. Donald Trump, pendant sa campagne, avait évoqué l'idée et pourrait revenir sur le sujet dans son discours inaugural le 20 janvier. Le déménagement de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem signifierait tout simplement la fin de la solution à deux États, d'après la direction palestinienne. L'autorité palestinienne appelle donc à protester à l'occasion de la prière du vendredi dans tous les pays musulmans du Moyen-Orient. Les Palestiniens veulent faire de Jérusalem-Est la capitale de leur État. Israël veut faire de Jérusalem sa capitale éternelle. Et le statut de cette ville sainte pour trois religions révélées est l'une des questions les plus épineuses du conflit israélo-palestinien.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Alors, on vit la fièvre de la CAN 2017. Le Gabon se prépare à l'ouverture de cette CAN samedi. Les hommes d'affaires qui ont un peu souffert des effets de la crise politique espèrent une relance de l'économie, surtout à OIM dans le Nord, qui accueille les matchs du groupe C. Reportage sur place, Moki Edwin Kinzeka, ici Anastasie Toudiège.
L'hymne des éléphants de Côte d'Ivoire joue à plein volume au cœur du marché central d'Oyem. La CAN démarre le week-end prochain. 16 équipes vont s'affronter. Alain Traoré, grand supporter de l'équipe ivoirienne.
Vous avez le football, il faut une entente. Parce que vous voulez aller les meilleurs joueurs du monde. S'il n'y a pas entente, vous ne pouvez pas aller quelque part. Donc c'est ce que je peux leur demander. Quoi. C'est pas si vous recevoir mon message. Donc ils n'ont qu'à oublier les rancœurs, les querelles là. Sur le terrain, là, c'est un seul ballon.
Les éléphants sont dans le groupe C et ils vont croiser le fer avec le Gabon, le pays hôte, la République démocratique du Congo, le Maroc et le Togo. La passion du ballon rond sera à son apogée. Dans les rues d'Oyem, les spéculations vont bon train sur les retombées économiques de la CAN. Le Gabon a été touché par la chute du cours des matières premières. Le prix du brut a baissé de près de 70% alors qu'il était la principale source de revenus. Pour Gabriel Zomo, économiste d'origine gabonaise, les affaires, tout comme les salariés, sont touchés par la récession.
Les taux d'inflation restent relativement acceptables. L'inflation dans la CEMAC tourne à peu près autour de 3-4%. Mais lorsque nous regardons les soldes extérieurs, c'est là où la situation devient vraiment préoccupante. À cela s'ajoute évidemment l'environnement des affaires qui s'est détérioré. Lorsqu'on voit Doing Business, le Gabon a perdu 6 places. Et donc tous nos pays ont un environnement qui n'est plus propice à l'investissement. Et c'est ça la grande préoccupation. Et si nous ajoutons enfin le problème de la dette, notre dette commence à ne plus être viable. Le problème de fond est en réalité le manque de compétitivité de nos économies.
Lola Agnès, propriétaire d'un restaurant, espère que la clientèle venue pour la CAN va relancer ses affaires.
Quand il n'y a pas de mouvement, quand il n'y a pas de fête, ou bien quand il n'y a pas trop de soleil, il n'y a pas de clients. Mais on peut quand même rentrer avec un 25 000 à la maison, 50 000, vaut mieux ça au lieu de rien. Je peux arriver que j'atteigne 100 000 ou plus de 100 000 francs. Mais parfois, deux fois, ça me rapporte, ça m'aide, ça me soulage beaucoup.
Lola Agnès, comme d'autres chefs d'entreprise, espère que la CAN 2017 va relancer le tourisme au Gabon. Les matchs devraient être vus par des milliards de personnes à travers le monde, offrant aux joueurs et au pays une tribune unique. La CAN se jouera à Libreville, Franceville, Port-Gentil et Oyem.
Merci Anastasie Toudiège. L'armée de l'air sirène a mené dans la nuit plusieurs raids contre les rebelles dans la province d'Alep et contre leurs alliés djihadistes dans celle d'Idleb, rapporte aujourd'hui l'Observatoire syrien des droits de l'homme et des journalistes de l'AFP. Ces bombardements aériens sont menés alors que la trêve instaurée en fin décembre est toujours officiellement en vigueur. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.